BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. On va parler ensemble de l'attractivité de la Silver Economy avec le DRH de Domitys, des résidences seniors qui se déploient partout en France. Il sera avec nous dans un instant. Est-ce que vous êtes aussi bien protégé en télétravail qu'au bureau? C'est la question qu'on va poser à Loïc Marie, directeur général d'April Entreprises. Et puis, l'intelligence émotionnelle, est-ce que ça peut s'apprendre? Question qu'on va poser dans un instant à Émilie Alaoui. Elle est cofondatrice d'Upfil. Happy Boulot le Mag. C'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va parler ensemble d'un sujet économique fondamental, l'attractivité de la Silver Economy. On est avec Pascal Guérinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes DRH de Domitys. Domitys, c'est des résidences seniors non médicalisées. Vous avez 130 résidences, 13 000 seniors, 20 ans d'existence et 3 000 salariés. 3 000 salariés qui ne sont pas du secteur médical. Vous n'êtes pas des maisons médicalisées, mais vous travaillez dans le secteur de la Silver Economy. On a eu le scandale Orpea qu'on a suivi comme un feuilleton ces derniers jours, si ce n'est ces dernières semaines. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur vous?
Comme vous l'avez dit, en fait, nous ne sommes pas dans le secteur médicalisé. Donc, notre offre, c'est de proposer à des personnes seniors de se loger en toute autonomie. Donc, on a une approche qui permet, en fait, avec bienveillance et en proposant un sens du service, de prendre en charge un certain nombre de seniors qui le souhaitent, tout en restant chez eux. Voilà. Donc, on n'est pas dans un environnement médicalisé. Nous sommes dans un environnement de service avec des métiers de service.
Oui, mais on sait que tout scandale a un impact global sur tout un secteur. Les salariés discutent entre eux sur la manière dont on s'occupe des seniors, même si chez vous, évidemment, ouais, vous n'êtes pas un EHPAD. Les gens sont en forme puisqu'ils ont accès à des services, ils bougent, ils sont autonomes. Est-ce qu'il y a quand même une réflexion globale chez toute personne qui s'occupe des personnes âgées sur la manière dont on s'en occupe?
Oui, en fait, et notre offre finalement couvre ce domaine-là, c'est d'être en proposition d'anticipation, c'est-à-dire de prévention. Et donc, si vous voulez, par cette offre de service, nous essayons de maintenir en bonne santé les personnes seniors de façon à ce qu'on puisse repousser au maximum leur perte d'autonomie. Donc, c'est un vrai pari. C'est un vrai concept et on souhaiterait en fait augmenter de façon significative cette offre-là. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'évolution démographique en France, hein, je rappelle, aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de personnes qui ont plus de 75 ans. Dans une trentaine d'années, c'est le double, donc 12 millions. Dans moins de 10 ans, c'est 9 millions. Et donc, notre ambition, c'est de pouvoir doubler notre offre au sein des résidences services seniors, ce qui est à peu près 1000, aujourd'hui c'est 800, donc c'est 1600 dans à peine 10 ans. Et au sein du groupe Domitys, vous avez cité le chiffre de 130 et nous espérons proposer 300 résidences en 2030.
Donc pour faire fonctionner vos résidences, vous en tant que DRH, vous avez besoin de quelle typologie de personnel? Vous êtes une sorte de géo, vous avez des, ouais, gens qui font de l'animation?
Il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de métiers qui ont trait en fait à l'hôtellerie, puisqu'on accueille. Il y a des métiers aussi qui sont dans l'entretien des espaces verts, pour que les bâtiments restent accueillants. Et puis il y a des métiers de nettoyage, il y a des métiers de restauration, service à table, hein, c'est en tout cas le principe qu'on adopte, ainsi que des cuisinants. Donc une résidence, c'est à peu près 110-120 appartements, donc 140-150 résidents, et l'équipe, c'est entre 20 et 25 personnes à chaque fois, donc avec des métiers qui sont à la fois dans le secteur d'hôtellerie, mais aussi dans le service à la personne et avec une population spécifique puisqu'il s'agit de seniors.
C'est quoi l'évolution de carrière type chez vous? Il y a des passerelles entre les métiers de loisirs où on rentre et après on gère une petite équipe au sein d'un bâtiment?
En fait, il y a donc plusieurs possibilités, hein, donc qui sont offertes. Nos profils, ce sont plutôt des personnes qui sont, j'allais dire, à même de pouvoir être dans la relation humaine. Donc il y a beaucoup d'humains dans nos métiers. Et ensuite, on propose des évolutions Donc il y a une dizaine d'années, on a monté une école qui s'appelle l'école Domitis, qui est devenue là depuis le 1er janvier.
Vous faites partie de toutes ces entreprises qui considèrent qu'il n'y a pas assez de formation qui existe et qui créent leur école en interne.
Alors, c'est là, quoi pour, c'est un... pour le coup, c'est une école interne, donc depuis le 1er janvier. Donc c'est une structure juridique ad hoc qui s'appelle Domitis Campus et qui va proposer des parcours de qualification pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Encore une fois, nous sommes dans un métier finalement un peu singulier, atypique, au carrefour de l'hôtellerie, de la restauration et puis de tous les métiers de service à la personne.
Mais c'est certifiant, c'est une formation.
Oui, tout à fait. On a même un diplôme pour nos directeurs de résidence qui est préparé avec en collaboration avec une école de commerce qui s'appelle Kedge et la Sorbonne. Et donc ils sortent de cette formation, de ce cursus avec un diplôme et qui leur permet justement de pouvoir continuer à grandir à des postes à responsabilité. 25 résidences de construite à peu près tous les ans. Vous voyez un peu la croissance qui est la nôtre. Donc 25 résidences, ben c'est à peu près entre 400, 500, 600 emplois tous les ans qui vont être créés. Aujourd'hui, c'est à peine 4000 salariés. Dans 4 ans, c'est 6000. Et donc, cette croissance-là va nous permettre de pouvoir accueillir des personnes qui exercent un emploi en proximité de là où ils habitent, puisque ces emplois ne sont pas délocalisables. Exactement.
Mais par contre, vous êtes vraiment un carrefour. C'est-à-dire que vous ne faites pas de soins, vous êtes dans l'hôtellerie, la restauration. En même temps, vous avez besoin de personnes qui s'intéressent aux autres et qui ne sont pas uniquement que dans une démarche commerciale. Vous arrivez à trouver ce type de talent ?
Ben, on prend des gens sympathiques, déjà.
Oui, oui.
Donc il y en a beaucoup. Et puis après, ben, on les accompagne dans leur savoir-faire, que ce soit dans les métiers plus spécialisés, comme l'accueil. Et donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir proposer par ces parcours qualifiants de monter en compétences. Donc c'est un vrai, si vous voulez, c'est une vraie démarche qui a pour vocation à la fois de fidéliser, bien entendu, au-delà de professionnaliser, pour permettre de faire face à cette croissance très très importante.
Tout est intégré au sein d'une même maison, c'est-à-dire que une structure va avoir son équipe de ménage, son équipe de loisirs, ou vous avez des partenaires extérieurs.
Alors sur la partie accueil, on a effectivement nettoyage, on a de la maintenance, petite maintenance, entretien des espaces verts. Et puis après, il y a un certain nombre de métiers médicalisés pour le coup, ou paramédicaux, pour lesquels on propose en fait de venir au sein de nos résidences, que ce soit des kinésithérapeutes, que ce soit des infirmiers, et qui viennent en fait au sein des logements de nos résidents, puisqu'ils sont encore une fois chez eux, afin de pouvoir assurer les soins dont ils bénéficieraient tout en restant chez eux. Voilà, c'est ça le principe, si vous voulez, c'est de pouvoir apporter un service médical au sein des logements de chacun de nos résidents.
Vous, en tant que DRH, comment vous voyez votre travail aujourd'hui ? Vous dites, je suis un sniper de talent, je dois faire en sorte que toutes ces professions très différentes arrivent à se parler. Vous voyez comment votre travail ?
Alors, c'est plutôt un travail d'assemblier, j'allais dire au sens premier du terme, c'est-à-dire de pouvoir accueillir toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans ce métier-là, donc qui, par définition, ont des qualités de relations humaines, et puis d'être dans ces démarches, encore une fois, de professionnalisation, permettant de pouvoir accompagner les équipes dans la croissance du groupe.
Vous parlez d'attractivité des métiers, en termes de salaire, vous en êtes où ? Vous êtes au-dessus du marché ?
Donc nous sommes dans la branche hôtel, café, restaurant. Mm-hmm. Et comme vous le savez, cette branche
a négocié dur
et ça aboutit à un accord plutôt intéressant, puisque les salaires minimums de la branche ont été réévalués en moyenne de 16%. Donc pour nous, il y a un impact direct et ça va permettre justement de pouvoir accompagner les équipes dans leur montée en compétences. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, de rester attractif et de pouvoir attirer tous ceux et celles qui ont envie de s'investir dans ces magnifiques métiers.
Voilà. J'entends deux choses. J'entends le premier, c'est qu'évidemment vos concurrents, c'est tous les hôtels, les cafés et les restaurants, d'un secteur qui est quand même sacrément en tension. Et deuxièmement, sur les compétences, qu'il va falloir faire en sorte que, puisque les salaires vont monter, que les compétences montent.
En tout cas, c'est de pouvoir aussi qualifier, de vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre le niveau salarial et puis les compétences qui sont proposées. Et notre travail en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir accompagner ces équipes dans cette montée en compétences par des parcours qualifiants. Voilà, donc le principe, c'est d'accueillir tous ceux et celles qui ont envie de s'inscrire dans ces métiers-là et de pouvoir les accompagner pour ceux qui le souhaitent, qui en ont le talent, l'envie. Dans la prise de responsabilité, en prenant des responsabilités, eh bien, ils vont monter en salaire.
Voilà. Sauf que vous cumulez presque deux handicaps, c'est-à-dire deux handicaps, deux secteurs qui sont profondément en tension, l'hôtellerie-restauration plus la silver economy. Vous êtes au carrefour.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens pour qu'ils vous rejoignent, pour qu'ils aient l'envie justement de surmonter ces deux pseudo-handicaps?
C'est un métier qui est éminemment humain. C'est un métier qui est porteur de sens. Les niveaux de croissance compte tenu de la démographie que j'évoquais sont très très importants. Donc on est créateur d'emplois, 500 emplois en moyenne tous les ans jusqu'en 2025-2026. Et donc à ce titre-là, on travaille aussi sur les conditions de travail permettant d'éviter des horaires trop décalés. Donc c'est tous ces aspects-là qui doivent nous permettre de pouvoir continuer à accueillir des personnes qui ont envie encore une fois de rentrer dans ce formidable métier du service auprès des seniors.
Eh ben merci beaucoup Pascal Guérinet d'avoir été avec nous, DRH de Domitis. On va continuer à parler ensemble ressources humaines.
Merci à vous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
On va parler télétravail et protection sociale. On est avec Loïc Marie. Bonjour, vous êtes directeur général d'April Entreprise. On va parler couverture des risques ensemble. C'est pas parce que je suis en télétravail que je peux forcément ne jamais me faire mal. C'est possible d'avoir un petit accident. Est-ce que les salariés se considèrent aussi bien protégés chez eux qu'au bureau ?
Alors, est-ce qu'ils se considèrent aussi bien protégés chez eux qu'au bureau ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont. Et que tout est prévu pour faire en sorte que s'il leur arrive le moindre problème en tant que télétravailleurs, eh bien, ils seront pris en charge au même titre que s'ils sont sur place.
Est-ce qu'il faut demander à son entreprise quelle est sa protection sociale, quel est son niveau de protection ou ça ne sert à rien ?
Alors, c'est pas nécessaire. De toute façon, l'employeur, systématiquement, à partir du moment où des garanties sont acquises, eh bien, le collaborateur en a l'information lors de son recrutement et l'ensemble des évolutions de son contrat d'assurance sont prises en charge et communiquées en temps voulu, généralement au début d'année, au moment des renouvellements.
Ça veut dire, je tombe dans l'escalier, c'est potentiellement un accident du travail. Je me fais mal avec ma cafetière chez moi, c'est un accident du travail. Mais à quel moment on considère que je suis en pause et que je ne le suis pas ?
Eh bien, là, c'est pas très clair, hein, c'est pas très, identifié, identifiable. Donc, ce qui est sûr, c'est que sur la partie télétravail, on a des moyens digitaux pour savoir à quel moment le collaborateur travaille, se connecte et le moment où il se déconnecte. À partir du moment où il est connecté et chez lui en activité de télétravail, et que c'est validé dans les thématiques, notamment d'accord télétravail avec son manager, eh bien, il est pris en charge au titre de ce travail.
Mais tout le monde n'a pas des horaires fixes.
Tout le monde n'a pas des horaires fixes, je vous l'accorde. Pour autant, quand il y a connexion en télétravail, en horaire fixe ou en horaire variable, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se connecte, hein, c'est le sujet de la connexion.
Ce qui veut dire que la connexion suffit à prouver que vous travaillez ?
La connexion suffit à prouver que vous travaillez, mais pas que, puisqu'il peut y avoir aussi la préparation en amont. Et donc ça, c'est compris aussi dans ces horaires de travail, en tout cas. Que ce soit les déplacements, au même titre que quand vous vous déplacez, sur votre lieu de travail.
Vous êtes courtier en assurance, en protection sociale. Quelle est aujourd'hui l'évolution du marché ? Les entreprises cherchent à augmenter le niveau de protection ou on cherche plutôt à faire baisser les coûts ?
Alors là, les protections sont déjà d'un très bon niveau globalement dans les entreprises, avec un certain nombre de règles, de lois, avec les conventions collectives, les prises en charge sont d'un très bon niveau. Ce qui est important de noter, c'est plus sur la partie recherche d'outils complémentaires, notamment de prévention. C'est là où les entreprises vont aller chercher des avantages complémentaires et y compris pour se démarquer de la concurrence aussi.
Alors, elles vont chercher quoi comme type de prévention ?
Eh bien, les préventions qu'elles vont aller chercher, c'est toutes les thématiques qui vont permettre aux collaborateurs eh bien, de s'épanouir un peu plus, d'être en mesure d'identifier ces périodes un peu plus délicates dans leur vie, notamment l'équilibre vie privée-vie pro, parce que forcément, ce travail à la maison ou ce télétravail va venir grignoter l'espace personnel.
Donc, c'est ceux qui vont chercher de l'assistance psychologique, des lignes rouges, c'est quoi ?
Exactement. Donc, on va avoir de l'assistance psychologique, on va avoir des outils digitaux aussi pour permettre de se tester sur le plan psychologique. Ces lignes rouges, ou plutôt, je dirais, l'accompagnement de ces collaborateurs, c'est un élément vital pour les entreprises parce que c'est là où eh bien, elles vont accompagner les collaborateurs. Et on voit bien en ce moment que sur la partie recrutement, eh bien, on a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui sont très attentifs à l'attention qu'on leur porte justement sur le travail et comment est-ce que l'employeur prend soin d'eux au moment où ils sont à l'extérieur de l'entreprise.
Mais on pourrait se dire tout ça, c'est la protection personnelle, ça devrait passer par l'assurance individuelle. Non, vous vous dites que ça fait partie du cadre que doit apporter l'entreprise.
Moi, ce que je pense, c'est que l'employeur se doit d'intervenir pour le bien-être de ses collaborateurs. S'il gère ce bien-être de ses collaborateurs, derrière, il y aura de l'efficience sur le plan du travail. Donc, si les entreprises décident de prendre soin de leurs collaborateurs, à la fin, on aura des collaborateurs qui seront mieux et on évitera des thématiques comme le burn-out.
Vous voyez la critique qu'il y a derrière, c'est que vous dites... Il y a des lignes rouges, il y a des choses qu'on met en place pour aider, faire en sorte que les collaborateurs aillent mieux. Mais tout ça, c'est a posteriori. Peut-être qu'il vaudrait mieux travailler au management, au quotidien, faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de ces accompagnements.
Je suis totalement en phase avec ça, sur le fait que, notamment en amont, on travaille le sujet de la prévention et qu'on accompagne le management, qu'on accompagne les collaborateurs. Et on voit bien que quand on met en place des formations d'accompagnement sur les difficultés rencontrées, qu'elles soient liées au télétravail ou à des appels difficiles reçus par les collaborateurs, on voit que quand ils ont cette formation, ils reprennent de la hauteur. Et du coup, ça leur permet d'être plus à l'aise aussi dans leur travail ensuite. Donc évidemment, le sujet de la prévention, de la formation, sont des sujets évidemment à mettre en place.
Mais qu'est-ce que vous venez faire, vous, après l'entreprise, en tant que courtier d'assurance, là-dedans ?
Nous, en fait, notre rôle, c'est de faire en sorte que les sujets d'assurance, et notamment de contrat de prévoyance, ne dérivent pas. Nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte que le risque n'arrive pas et qu'on puisse le piloter en amont du fait qui va générer de l'indemnisation. Moins on indemnise, mieux on se porte. Et donc, plus les collaborateurs sont bien, mieux on se porte aussi.
Faites baisser le risque en augmentant l'attention portée aux collaborateurs.
Exactement.
Ça se tient. Merci beaucoup, Loïc Marie, d'être venu nous voir dans Happy Boulot Lomag. On va parler intelligence émotionnelle.
BFM Business, Happy Boulot Lomag. Business Case.
L'intelligence émotionnelle, est-ce que ça s'apprend ? On va en parler avec Émilie Alaoui. Bonjour, vous êtes cofondatrice d'Upfeel, un programme de formation pour développer l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour les gens qui n'en ont pas de l'intelligence émotionnelle ?
Ben oui, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors, il faut savoir déjà qu'en fait, on a tous des émotions. Donc du coup, qui dit qu'on a tous des émotions ? Souvent, on ne sait pas quoi en faire, en fait. Et donc, l'objectif, nous, de notre méthode, c'est justement d'aider les gens à se développer en travaillant sur diverses parties des émotions pour justement que émotion ne soit plus associée à hystérie, parce que souvent c'est ça, c'est parce qu'on gère mal ses émotions qu'on n'en a pas conscience, que du coup l'émotion a mauvaise presse en entreprise.
Bah oui, avant il fallait la cacher, l'émotion. Exactement. C'est pas, on se laisse déborder par ses émotions, ça n'avait rien de positif dans un contexte professionnel.
Exactement, en fait on nous a souvent dit, il vaut mieux les émotions, on les laisse à la porte de l'entreprise parce que quand même c'est beaucoup plus pratique. Sauf que déjà une émotion en fait c'est une réalité biologique et physiologique, donc on en a tous et c'est un signal d'alarme. C'est vraiment quelque chose qui est là pour nous transmettre un message et nous faire comprendre qu'en fait un besoin doit être satisfait ou pas. Donc en fait, si je suis en colère ou si je suis triste, c'est qu'il y a une situation qu'il faut que je règle en fait. Et donc du coup, souvent les gens sont complètement déconnectés de leurs émotions. Et donc quand je suis déconnectée de mon émotion, je ne la gère pas, je ne la comprends pas, et donc c'est là où du coup le cerveau prend le relais et ça s'accélère. Et donc là, je rentre dans des débordements émotionnels qui du coup sont très très négatif en termes de comportement.
Mais du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est gérer le couvercle, en fait, c'est de faire en sorte que ça explose pas, mais que j'arrive à quand même m'exprimer.
Ouais, l'intelligence émotionnelle, en fait, fait, c'est le fait d'à la fois comprendre, reconnaître qu'on a des émotions, apprendre à les réguler et aussi comprendre que les autres ont des émotions et du coup pouvoir anticiper aussi les besoins des autres. Et c'est très important à la fois à titre individuel, il faut vraiment prendre conscience de qui on est, se connaître, appréhender ses propres émotions pour pouvoir après mieux échanger avec l'autre et percevoir les émotions de l'autre. Et souvent, les situations de conflit en entreprise ne sont autres qu'en fait des gens qui sont dans un débordement émotionnel de colère. On peut toujours essayer de rationaliser le truc, ça ne fonctionnera pas en fait. Par contre, si j'ai conscience que moi je suis en colère sur un sujet, que j'arrive à vous l'exprimer et que j'arrive à dire voilà pourquoi moi je suis en colère, parce que j'ai un besoin qui doit être satisfait, et si l'autre est capable de l'entendre, et ben en fait tous les problèmes s'en vont.
Alors on parle souvent dans Happy Blue Le Mag par exemple de la méthode DISC avec les couleurs où chacun a son groupe et essaie de comprendre les autres. Vous, c'est quoi votre méthode?
Alors nous, notre méthode en fait, elle passe par l'expérience et par le côté ludique. On a deux constats, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui est à la base très théorique. Donc c'est compliqué de mettre quelque chose dessus. Et en plus, les émotions, c'est quelque chose qui passe par le corps en fait, c'est quelque chose qu'on vit. Donc du coup, nous, on passe par une pratique où on veut vraiment mettre les gens en situation pour qu'ils aient une trace émotionnelle de ce qui se passe en eux, et du coup après on leur apporte la théorie. Donc on va vraiment leur faire vivre des expériences pour qu'ils ressentent les émotions et qu'après ils arrivent à ancrer le côté.
Mais comment vous faites des expériences? C'est-à-dire vous les mettez dans le froid, dans le chaud?
On fait des expériences, on leur fait vivre des choses.
Vous les jetez dans l'avion
en fait. Donc on leur fait faire, par exemple, on peut travailler sur les émotions désagréables. Donc les émotions désagréables, c'est la rage, la colère, la peur, la tristesse. Souvent c'est des émotions qu'humainement on a tendance un peu à refouler complètement, mais c'est pas une bonne idée parce que de toute façon, l'émotion est la plus forte, donc elle va ressortir à un moment ou à un autre, soit sous forme de maladie dans le corps, soit sous forme d'explosion émotionnelle à un moment peu approprié. Et donc, du coup, nous, avec la psychologie du boxeur et par un atelier de boxe, par exemple, on va faire justement sortir un peu tout ça, et on va faire prendre conscience aux gens que l'acceptation de ces émotions désagréables va permettre de libérer de la place dans le cerveau et de les faire passer à autre chose, et de ne pas rentrer dans un schéma de rumination. On leur fait aussi des ateliers de respiration, où ils peuvent reconnecter leur corps. On a énormément de...
Donc c'est très physique.
C'est physique et mental. En fait, c'est un mélange d'expérience physique et mentale. On a une conteuse qui travaille avec nous, qui va évoquer certaines histoires et on va faire réagir les gens. On a des ateliers plus artistiques. On a vraiment un mélange de tout. Et c'est un programme qu'on a construit avec un neuroscientifique et des experts RH. Et donc, du coup, systématiquement, une expérience est reliée à un point de l'intelligence émotionnelle à travailler spécifiquement. Et donc après, on aura vraiment l'apport théorique et neuroscientifique pour que les gens intègrent vraiment la pratique.
Donc c'est-à-dire qu'à la fin, après avoir fait ces exercices-là, je me dis, moi mon problème c'est la colère, moi mon problème c'est l'hypersensibilité. On arrive à mettre un mot sur un problème personnel.
Alors nous, on n'est pas en mode étiquette, mais par contre, on commence en fait, tout notre programme démarre par un bilan émotionnel. Donc en fait, on fait un bilan, on va répondre à un certain nombre de questions qui vont nous permettre de nous positionner sur 6 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Et après, on vit notre expérience collective, et à la suite de ça, on a un débrief, on est accompagné pour justement avoir un échange avec un coach qui va pouvoir, sur la base du bilan et sur la base de ce que vous allez lui dire voilà, toi, tes champs d'action, tes compétences à développer, en fait, il faut insister là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et ce qui est très important, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui se travaille au quotidien, en fait. Parce que sinon, c'est de la théorie, ça rentre par une oreille, par l'autre.
Collectivement.
Ça se travaille
parce
collectivement.
Parce que pourtant, c'est quand même un problème individuel.
Eh ben ouais, mais en fait, c'est très important, et surtout en entreprise, en fait, de sensibiliser un système et une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, dans une expérience, et on accompagne beaucoup d'entreprises, dans les groupes, il va y avoir des gens qui vont être plus sensibles à quelque chose. Il y a des gens qui vont avoir un déclic sur une expérience, d'autres sur l'autre, et ils vont en parler entre eux. Et en fait, ils auront tous compris, ils auront tous vu que telle personne a été beaucoup plus sensible à ce sujet-là. Et le lendemain, quand ils vont se revoir, quand ils vont travailler ensemble, ils vont se dire, ah oui, toi, ton besoin, c'est celui-là, parce qu'on l'a identifié. Et donc, il y a un vrai travail pour recréer une énergie, pour recréer du lien, en fait, entre les collaborateurs, qui est quelque chose d'hyper important et qu'on a perdu durant ces 2 dernières années. Et en fait, l'émotion est un vecteur de vraiment collectif. Donc, il y a vraiment une double approche.
Ce qui veut dire que pour vous, presque quand on constitue une équipe, il faudrait leur faire un petit travail d'intelligence émotionnelle pour voir l'intelligence émotionnelle de l'équipe.
Alors, oui, on peut pas additionner les profils individuels pour en faire quelque chose de collectif. C'est pas si simple, ça marche pas comme ça. Par contre, en fait, nous, quand on approche un groupe, on a les bilans individuels et du coup, on arrive à dénicher une tendance du groupe. C'est-à-dire, est-ce que c'est très hétérogène? Est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans l'empathie, d'autres pas du tout? Et ça nous permet, du coup, d'adapter le discours. Et c'est vraiment une prise de conscience, effectivement, du collectif sur le fait que chacun est différent, mais que chacun a sa place place. Et ça n'est pas parce que moi j'ai
un
profil émotionnel comme ça.
Vous dites pas parfois cette équipe, il faudrait la reconstituer parce que là il y a trop d'émotions contraires. Ou...
Eh ben non, nous notre enjeu justement c'est de réussir à faire en sorte qu'ils arrivent à travailler ensemble. Et en général vraiment ils y arrivent, ils s'écoutent et ils se développent chacun vraiment par eux-mêmes pour après aller vers ce côté collectif.
Merci beaucoup Émilie Alaoui, cofondatrice d'Upfil. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et je vous dis à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.